Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur les antennes de Principe Actif et d'HDR, le pire reste à venir. Le pire est qu'on ait fini par le croire. Big up à toutes les équipes bénévoles et salariées de nos deux antennes et puis surtout à vous, amis auditrices et auditeurs. Au menu de cette émission, nous reviendrons sur le festival Les Soirées du Caméléon. Ça avait lieu ce week-end donc du côté de Val-de-Reuil à l'Arsenal. Nous y étions samedi et dimanche pour une émission de 17h à 18h. Malheureusement, au cours de cette émission, on n'a pas eu l'occasion d'avoir tous les artistes qu'on souhaitait croiser au micro pour des histoires de balance, de rendez-vous, de masterclass. Enfin voilà, c'est les aléas du direct. On en a profité, comme on est resté un peu plus tard un dimanche soir, pour croiser notamment le oudiste égyptien Mohamed Abouzek. On l'aura à nos micros, notamment à celui de JC. On reviendra également sur le festival Courtivore qui avait lieu tout le mois de mai et début juin. Ça s'est terminé ce vendredi soir dernier du côté de Rouen, festival de court-métrage. On aura en interview au micro de Zoé, le gagnant avec le film Souris. Le réalisateur s'appelle Christophe Switzer. Voilà, on aura l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur ce film qui a été primé par le public. Et notamment un film qui traite de la question de l'immigration des Syriens, des réfugiés syriens. Le film Souris avec le réalisateur Christophe Switzer au micro de Zoé. Et puis nous serons également en direct avec Laurine Bocage, responsable recrutement de l'agence CIM, pour parler job d'été. On aura l'occasion de vous donner des petits conseils si vous êtes à la recherche de votre premier ou second, voire troisième emploi, notamment pour bosser cet été pendant les vacances scolaires. Voilà, quelques petits conseils à prévoir ce matin donc. Et puis le tout sera servi en musique et avec de la bonne humeur. En tout cas, on l'espère. On sera dans quelques instants au micro également avec Julien, notre stagiaire. Vous avez pris l'habitude qui accompagne nos matinales. Il est en train d'arriver, d'accueillir notre invité justement, Laurine Bocage. En attendant, je vous propose un premier titre de The Drivers avec le morceau qui s'appelle Mister Astronaut. Merci d'être à l'écoute de Principe Actif et d'HDR.
In the
The Drivers. Le morceau s'appelle Mr. Astronaut.
Oh bah c'est bien. Et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors? Sans
ça
être...
Oui. Principe actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, bah merci de toutes ces précisions.
HDR, principe actif.
Et oui, c'est bien nous. On est avec Julien, je vous ai annoncé tout à l'heure au sommaire de cette émission. Bonjour Julien.
Salut mon Timothée, salut les filles, salut les autres. Et on est mardi aujourd'hui, c'est l'info inutile du jour. Parce qu'on enchaîne tellement de week-ends de 3 jours au cas où on ne se rappelle plus. Donc on vous le dit, on est bien mardi.
Trop de jours fériés entre mai et juin. Mais ça nous permet de nous reposer un petit peu, nous qui avons une saison bien chargée, bien riche avec tous les festivals et les différentes festivités qui sont organisées en cette période... pré-estival.
Beaucoup d'estival.
Exactement. On bascule du côté de vos messages répondeurs avec un monsieur qui était pas très content. Voilà, on va lui laisser exprimer son mécontentement, puis on reviendra dessus en quelques mots.
Ah ben, salut les mecs, hein. Moi je suis un auditeur averti depuis une bonne 5-6 ans, voire plus peut-être. Amateur de vos programmations avec Bouscan et Laurent Caen. Donc je pense que je suis des vieux de la vieille. Mais je me désespère, les mecs, vous savez ce que vous faites comme boulot, c'est quoi? C'est de la presse, c'est de la communication. Parce que pour le festival Les Caméléons, là, de ce soir à Val-de-Reuil, bah, nom de Dieu, ni vous, ni eux ne proposez la moindre programmation à l'ancienne. Alors je sais pas si c'est moi qui ai tout loupé parce que je suis pas sur Val-de-Reuil, mais par votre intermédiaire, je suis vraiment auditeur averti, quoi. J'écoute du début au soir, Nova un petit peu, et puis un peu Technogoa, quoi. Bon, passons. Mais une information claire et précise sur les concerts proposés, à part l'Orchestre National Barbès hier soir à la tête d'affiche, que dalle quoi. Ce soir, il y avait quoi? Moi, je suis à 15 km, j'ai pas spécialement envie de faire 15 bornes pour me casser le nez. L'organe de presse, c'est pas vous, la radio, là? Vous faites quoi, les mecs? Vous rigolez, quoi? Non, bon, ok, je respecte la radio libre. Excusez-moi si j'abuse. Bon principe, belle ouverture d'esprit, belle diffusion. Mais bon, petite programmation, j'aurais bien aimé. Donc sur WordPress, Les Caméléons, que dalle. Sur Facebook, Les Caméléons, que dalle. Bah alors, c'est moi, je suis un vieux con, 46 ans, j'ai pas pigé. J'ai plus de Facebook, il me fait chier sur Kenderg. J'ai plus de Twitter, ils me font chier les startups à l'américaine, la sauce Trump. Moi, la sauce Trump dans les burgers, déjà j'aime pas les burgers, mais Trump pas mieux. Donc on peut s'adapter un peu, travailler ensemble, trouver des solutions viables. Parce que là, c'est une grosse foutaise. J'ai pas envie de me casser les dents, je vous dis, mec. Il y a moyen d'avoir une programmation, un papier, un paplard, un truc, un newsletter, une ouverture. Non mais, bravo pour votre radio libre, mais excusez-moi, je suis un peu aigri. Salut.
Oui, juste pour répondre à ce cher monsieur, évidemment, on comprend la colère exprimée à ce micro, évidemment, pardon.
La frustration.
Exactement, et on diffuse évidemment ce genre de message aussi. Juste pour revenir en deux mots, alors j'ai pas tout à fait saisi l'idée de la prog à l'ancienne. En tout cas, si vous cherchez des informations sur notre présence au Caméléon, eh bien, ça avait été annoncé notamment dans la matinée, également sur les réseaux sociaux, notamment sur notre Facebook. Alors évidemment, si vous êtes fâché avec Facebook, bon, bah là, c'est un peu plus compliqué. Mais ça avait été annoncé à l'antenne la semaine précédente. Puis vous pouviez retrouver les informations et sur le Facebook du Festival des Soirées des Caméléons. Et en effet, sur le site internet WordPress, je suis dessus. On retrouve toutes les infos, toute la programmation. Et en termes de papier, il y avait évidemment les flyers et les programmes qui, j'imagine, avaient été distribués un peu partout. Nous, on en avait également à la radio. Il y en avait sûrement dans plein de commerces à Évreux, à Louviers, à Val-de-Reuil et également, j'imagine, à Rouen. Enfin voilà, il y avait moyen de trouver un peu d'infos. Maintenant, si elle n'est pas venue jusqu'à vous, eh bien nous le déplorons. On repart en musique avant de justement revenir sur ce festival, les Soirées du Caméléon, avec Mohamed Abouzekri qu'on a eu au micro un peu plus tard dans la soirée ce dimanche.
What a bamba, what a bamba, what a bamba.
Écoutez les Clarendonians, le morceau s'appelle Rudy Bam Bam.
Le pire reste à venir, tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Le pire reste à venir.
Et je vous l'annonçais, nous étions présents au festival des soirées du Caméléon samedi, dimanche du côté de Val-de-Reuil à l'Arsenal. Et était programmé notamment le houdiste égyptien Mohamed Abouzekri. Nous l'avons rencontré un peu plus tard dans la soirée au micro de JC. On le retrouve tout de suite.
Nous sommes avec Mohamed Abouzekri, bonjour. Vous jouiez ce soir avec la formation notamment e-jazz. Vous êtes oudis égyptien. Vous jouez une musique qui, moi, me semblait toucher entre le jazz, la musique traditionnelle et une interprétation très contemporaine. C'est comme ça que vous abordez la musique?
Tout d'abord, bonjour, merci de m'avoir invité pour l'interview. Bah, ce soir, oui, en l'occurrence, parce que je jouais avec e-jazz, donc, qui est aussi... le premier projet que j'avais monté en France en 2009 et qui est aussi comment dire un peu le projet auquel qui m'était toujours comme un laboratoire si vous voulez auquel bah j'ai cherché des idées avec des jazzman, donc forcément il y a toute une liberté hyper contemporaine de la musique qui s'entend forcément avec le public. Donc même si je viens des origines assez orientales et donc la musique elle est quand même voilà, la présence orientale elle est là, mais aussi voilà, comme j'ai aussi pas mal tourné, j'ai pas mal rencontré des gens dans les dernières années tout ça, et je pense que ça s'entend pas mal dans la musique et ça donne cet effet un peu contemporain. Puis déjà jouer du oud avec un pianiste et saxophoniste sur scène, voilà, ça force un peu cette couleur là surtout. Depuis tout le début, en fait, j'ai joué du oud au Caire. Enfin bref, tu vois, j'étais genre le plus jeune professeur du monde arabe, je sais pas quoi. Enfin, c'était un peu la propagande quand j'avais 15 ans au Caire, avec Nasir Chama, qui est un joueur du oud assez connu dans le monde arabe. Et puis, en fait, j'avais toujours ces petits trucs qui me donnent envie de me considérer comme un compositeur en premier lieu. C'est-à-dire que je suis musicien, je joue du oud, mais je suis pas une étiquette, enfin, je suis pas une personne exotique qui est là pour dire que oui, je fais du oud, donc écoute-moi, c'est la musique de chez moi, je sais pas quoi. En fait, moi, je considère que l'art est vraiment, est hyper, enfin, peut être ouvert à tout. et tout en respectant aussi la musique traditionnelle quand je la fais, parce que j'en fais aussi. Pour moi, c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est pour ça que je vous ai dit que e-jazz, c'est un projet pour moi comme un laboratoire expérimental. C'est-à-dire que moi, j'avais un apprentissage assez oriental, puis ensuite, je suis venu à Lyon en 2009, j'avais 18 ans, j'ai voulu apprendre en fait la théorie de musique occidentale, etc. J'ai fait une grande formation avec Nazir Shammai et Hazem Shaheen et Nihad El Sayed, ces deux joueurs de oud qui étaient à ce moment-là à la maison d'études arabe, qui sont des diplômés là-bas et qui m'ont appris qui étaient mes professeurs principaux pendant un moment. Mais qu'ensuite, quand j'ai bougé en France, j'ai aussi eu des super professeurs à la fac de Lyon. J'ai aussi eu une prof qui s'appelle Christine Choré qui m'a fait des solfèges pendant 4-5 ans. Et que je pense que avec le temps, d'ailleurs, je les remercie tous au deuxième album, parce que c'est là où j'arrivais à un stade où j'avais senti que je commençais à peine à pouvoir récolter un petit peu de ce que j'avais appris en France. Et ce qui aussi, est-ce qui me rendait aussi heureux, je pense. Et c'est pour ça que je vous dis que. Voilà, à Lyon, j'ai eu aussi cette prof, Christine Choré, qui me faisait solfège tous les lundis et que j'étais en tournée avec jazz et tout ça, enfin musicien, j'ai fait ça, etc. Et je revenais dimanche à Lyon et je savais que le lendemain à 8h, j'allais prendre mal avec Christine Choré qui va me flinguer pendant toute la matinée à faire du choral et à me dire que non, il faut chanter comme ça et pas comme ça. Et je pense que ça en fait quelque chose pour moi aujourd'hui et même avec d'autres profs, notamment à la fac et tout ça. C'est-à-dire que oui, j'apprécie beaucoup la formation que j'ai faite. C'est ma formation initiale ou principale sur laquelle j'ai tout construit dans le oud et tout ça. Mais je pense que en apprenant des choses aussi avec des professeurs que j'ai adorés, que j'aime beaucoup à Lyon, et forcément ça a joué dans ma manière de jouer de oud, oui. Parce que moi, quand je vais aller, je jouais pas vraiment de piano. Quand je veux les relever des chorales, je les jouais au oud. Et ça m'a fait dégager quelque chose, ça m'a forcé à chercher de nouvelles sonorités, de nouvelles couleurs sur le oud et de nouveaux accords qui personne ne faisait, parce que ça n'existe pas, c'est parce que juste que ça n'existait pas dans cette culture-là. Et donc, moi, c'est ce que j'appelle vraiment un vrai métissage. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vraiment été hyper rejetant par rapport à l'idée d'être un joueur de oud exotique qui arrive en France et des coups qui reste sur ses acquis et qui joue que de la musique orientale pendant toute sa vie pour dire que oui, je fais de la musique égyptienne, etc. Pour moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que aussi j'avais quelque chose à faire ici. C'est-à-dire, j'avais envie d'apprendre et d'échanger avec des gens, qui soient les musiciens de jazz ou qui soient mes profs à la fac. L'idée d'avoir un mot manouane chaud, même dans la culture orientale. Donc j'avais vachement ce truc-là, ce rapport-là à l'instrument, au fait que je monte un groupe, j'invite des musiciens, il faut que j'assume mon rôle de leader, il faut que. Enfin, tu vois, on a vraiment ces valeurs-là. que d'ailleurs auquel j'ai aucun problème avec, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, bah, j'essaye d'aborder autre chose, j'essaye d'aller chercher autre chose, quoi. Et notamment, bah, celui de mettre plus en valeur l'art, plus que ce qu'on va présenter au niveau de la personnalité et de la présence sur scène. Et cette histoire-là, elle se développe au gré des années aussi que je passe avec ces musiciens-là.
Merci beaucoup, Mohamed Abouzekri, de ce moment partagé. Merci.
Check the club, put ya, somebody like a only line on the group with the fire now. Hey!
Imam Beldi, le morceau s'appelle Taxartina.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir. La matinale du matin qui va bien.
HDL.
Les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principative.
Alors écoute.
99.1 HDR.
Et 102.4 FM.
Radio Principative.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons
le
plans.
Le pire reste à venir.
Et oui, c'est bien nous. On est ensemble depuis 8 heures sur les antennes de Principative et d'HDR. Et maintenant, nous sommes avec Laurine Bocage. Bonjour. Bonjour à vous, vous êtes responsable de recrutement à l'agence CIM. Avec vous, on va parler des Bonjour. Jobs d'été. Bonjour à vous, on est également avec Julien, on t'a entendu
là.
Tout à l'heure, tout va bien. Parlons un petit peu des jobs d'été. L'idée pour nous, c'est de donner des conseils, notamment aux plus jeunes qui cherchent peut-être leur premier ou leur deuxième emploi, qui sont encore en études et qui vont peut-être bosser pour la première fois cet été. Quels conseils on pourrait leur donner à ces jeunes ou c'est moins jeune d'ailleurs.
Effectivement, donc là l'été arrive et c'est vrai que de nombreux jeunes veulent essayer de trouver un petit job pour avoir justement un petit peu de sous de côté parce qu'on sait très bien que c'est pas évident justement de faire son année scolaire et en même temps d'avoir des sous de côté. Donc moi j'ai quelques conseils pratiques qui peuvent être intéressants je pense pour les jeunes. Tout d'abord c'est essayer de comprendre dans quel environnement on est. On est sur la zone d'Évreux, 30 km d'Évreux, hein, j'agrandis. Fortement industriel, c'est-à-dire principalement les jeunes peuvent prétendre à des postes dans des usines en tant que préparateur de commandes, d'agent de conditionnement, donc des postes qui sont faciles d'accès, qui peuvent leur permettre rapidement d'avoir un petit pécule et de travailler au mois, parce qu'on arrive sur l'été et donc justement faut remplacer le personnel qui part en congé principalement. Donc il y a deux possibilités. Pour moi, pour les plus téméraires, entre guillemets, ça serait d'aller directement sur, en agence d'emploi, pousser la porte, bonjour, se présenter avec un CV concis, pas la peine de raconter spécialement beaucoup de choses, juste au moins les dernières expériences passées sur les précédents étés, et justement assimiler ces dernières expériences avec des compétences clés. Capacité à fédérer, dynamisme, motivation, un serveur par exemple, gestion du stress, voilà. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut associer au CV. Comme ça, dès que vous arrivez dans une agence d'emploi, vous savez de quoi vous parlez.
Souvent, notamment quand on est encore étudiant, on n'a pas eu, on sort par exemple juste du bac, on n'a pas encore eu l'occasion de travailler. Et souvent, les employeurs, les recruteurs nous disent, bah ouais, mais vous n'avez pas d'expérience. Comment on peut répondre à ça? Parce que c'est vrai, oui, j'ai pas d'expérience, j'ai encore jamais travaillé, mais par contre, je suis ultra motivé. Ah oui, mais tout le monde me dit que je suis ultra motivé, enfin, qu'ils sont tous ultra motivés. Comment on retourne un peu le truc pour avoir essayé en tout cas d'avoir sa chance?
Alors. Moi, dans mon fonctionnement au niveau de mes recrutements sur les étudiants, pour moi, le savoir-être, c'est important. Quand je parle de savoir-être, c'est-à-dire un étudiant qui vient déjà à l'agence le matin, qui m'explique qu'il est disponible pendant 3 mois d'été. À côté de ça, il me présente un CV nickel, il a une bonne tenue vestimentaire et il m'explique que voilà, il connaît en tout cas comment fonctionne l'emploi saisonnier. C'est-à-dire, à un moment donné, un jeune qui se rend compte que l'emploi saisonnier, il a une carte à jouer, il est motivé et il exprime ça de manière claire devant un recruteur. En tout cas, moi, à mon sens, ça joue. Pas la peine d'avoir fait 10 000 expériences professionnelles. Du moment que l'étudiant sait où est-ce qu'il va travailler, ce qu'il recherche et sa disponibilité, ça fait quand même un bon résultat, selon moi.
Ces dernières années, on parle beaucoup du mini-CV, c'est très tendance. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est?
Oui. Alors moi, j'ai pas mal d'étudiants à qui j'ai conseillé de faire ça. Donc en fait, un mini CV, c'est... Alors principalement, moi, je l'ai vu sous forme de carte de visite qui retrace les expériences les plus significatives, donc soit de l'étudiant, soit d'un salarié aussi classique, et qui permet partout, j'ai envie de dire, c'est comme un passeport. Passeport de l'emploi, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, je te rencontre, Julien, on discute, tu as une proposition d'emploi à me faire ou tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider. Moi, en gros, dans ma poche, je peux te donner ce mini-CV qui retrace, comme je l'expliquais, rapidement, vraiment les points essentiels et ça permet d'avoir une vue rapide et complète au lieu d'avoir un CV en format A4 qui peut être un peu compliqué à ranger, quoi.
Donc on privilégie tout ce qui est savoir-être, savoir-être,
oui.
Ce genre de...
Voilà, c'est ça en fait. Le savoir-être aujourd'hui, ça fait vraiment la différence. En gros, sur deux CV ou deux compétences égales, moi au niveau de mes recrutements, je sais que je vais faire un choix un peu plus sélectif sur une personne qui, en termes de savoir-être, donc c'est-à-dire attitude, comportement, qui est beaucoup plus enclin à travailler et à être dans des environnements compliqués où il va pouvoir justement s'adapter. Pour moi, quelqu'un qui a un bon savoir-être, c'est ça. C'est une personne qui gère son environnement et qui a le comportement qu'on attend en milieu professionnel.
Donc ça, c'est bon de le rappeler, au-delà de dire « je suis très motivé », c'est très cliché. Donc mettre en avant les savoir-être, c'est ça que tu
voilà,
nous dis.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ça peut être tout. Là, est-ce que je vais pouvoir vous donner un exemple? Je reprenais l'exemple du serveur. Et c'est parce qu'en plus, je l'ai donné à un étudiant qui passait à l'agence encore la semaine dernière. Un étudiant serveur qui a travaillé pendant tout l'été, donc sur une période saisonnière où effectivement il y a beaucoup de monde, il faut gérer différentes choses, m'expliquer qu'en tant que serveur, il a réussi à gérer son stress, ça c'est un vrai savoir-être. Et ça, il faut l'avancer et le mettre sur le CV. Et de surcroît en plus, si on a un mini CV, c'est des compétences qui tout de suite, au niveau du recruteur, on les voit.
Donc sur les CV ou mini CV et les lettres de motivation, donc les compétences évidemment, le savoir-être, le positionnement, comment je me présente au recruteur. Est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose d'autre d'important à mentionner, notamment sur une lettre de motivation par exemple?
Est-ce qu'on donne encore des lettres de motivation?
Oui, est-ce que ça existe encore?
Est-ce que c'est important?
Alors moi, pour tout vous dire, moi aujourd'hui, des étudiants qui passent, comme je les vois, pour moi, c'est une lettre de motivation.
C'est équivalent, quoi.
Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a encore toujours cet adage où, bon, CV, lettre de motivation. Mais moi, personnellement, quand je vois mon étudiant, voilà, c'est en direct, on est en face-to-face et c'est mieux. Maintenant, une lettre de motivation, pour moi, pour un emploi saisonnier, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut que ça soit concis. C'est pas la peine d'écrire beaucoup de choses et s'en mêler les pinceaux. Trois paragraphes qui expliquent pourquoi je suis là, mes disponibilités, ce que je recherche, et c'est largement suffisant.
Où est-ce qu'on peut chercher, trouver des annonces d'emploi et surtout comment on les comment on cherche? Voilà, je suis à la recherche et je sais pas comment faire.
Alors, je vais peut-être en ravir ou pas plus d'un, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui ont pris de l'avance. C'est-à-dire déjà depuis janvier-février, c'est ce qu'on conseille, hein. C'est directement d'aller sur des sites. Donc là, j'ai quelques noms. L'étudiant, qui est un gros pourvoyeur de job d'été. ProStudent aussi. Donc ça, c'est vraiment des principaux moteurs de recherche qui permettent aux étudiants de trouver directement, géolocalisé, des emplois. Après, pour ceux qui s'y prennent un peu plus tard, je peux comprendre, il y a les résultats, il y a les examens. Clairement, c'est pas du tout pour prêcher la paroisse des agences d'emploi, mais sur Évreux, on est 25 agences d'emploi et on a quand même, en termes d'environnement, même d'emploi, on a beaucoup de clients, c'est-à-dire. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer aussi de passer la porte et directement d'aller voir les recruteurs, parce que c'est que comme ça, facilement.
Et dans cette démarche-là, est-ce que je passe un coup de fil avant ou directement j'y passe avec mon CV et puis on discute, quoi.
Il faut passer, on discute, c'est mieux. C'est carrément mieux. Il y a un visage, on voit quelqu'un, on se rend compte de la personne et ça va être plus simple pour nous après de mettre à l'emploi.
Et pour relancer, est-ce qu'il est mieux de téléphoner? C'est une vraie question. Ou il faut passer, c'est mieux de passer régulièrement en agence? On fait quoi? On téléphone, on passe?
Alors ça dépend. Après, je peux comprendre au niveau du caractère. Pour faire simple, moi, je préfère le visu. Je le répète, une personne qui passe une fois par semaine, c'est largement suffisant. Mais au moins, je la vois et je m'en souviens. C'est ça justement les problématiques dans notre métier, c'est qu'on ne voit pas assez souvent les candidats. Et après, on a du mal à les mettre en poste.
Sur Évreux, et puis on peut parler également éventuellement de Rouen si vous avez les infos, mais en gros déjà sur la région Évreux et les alentours, quels secteurs recrutent, quels secteurs sont porteurs, où est-ce que j'ai des chances de travailler si je cherche un truc pour cet été?
Alors là, effectivement, ils ont sorti une récente étude avec le Pôle emploi, donc vous pouvez toujours retrouver l'étude sur pôle-emploi.fr. là-dessus, ils sortent pas mal de stats. Aujourd'hui, sur les trois métiers saisonniers les plus recrutés, on a en premier lieu, du coup, les serveurs. Alors ça, c'est quelque chose qu'on recherche pas mal. Ensuite, tout ce qui est professionnel de l'animation socioculturelle, donc soit en lien direct avec les enfants, soit dans des établissements spécialisés. Bon, en général, il faut quand même le BAFA. Donc ça, bon, ça reste quand même diplômant, mais à voir. Et en troisième position, c'est les agents d'entretien. Moi, si je fais un focus un peu plus sur Évreux, préparateur de commandes, agent de conditionnement, ouvrier non qualifié de l'emballage. C'est des postes qu'on recherche principalement puisque on est sur du volume. Donc, les étudiants, voilà, essayent d'affiner leur choix par rapport à, ces quatre principaux emplois recherchés au niveau de l'été.
Éventuellement sur Rouen, si vous aviez des infos.
Je n'ai pas les chiffres. Maintenant, tout ce que je sais, c'est que moi, j'avais pu un petit peu regarder. Je sais qu'on reste quand même assez similaire par rapport à ce que je vous ai dit sur vraiment le bassin de la Haute-Normandie. Donc vraiment sur encore des emplois liés à la restauration, aux services et aux tertiaires et logistiques. Donc il y a vraiment moyen, je pense, pour des étudiants motivés de pouvoir trouver un peu la corde à son arc et quel métier qui va être le plus approprié par rapport à ce qu'ils recherchent.
Est-ce qu'on aurait oublié d'évoquer un élément essentiel, que ce soit pour la recherche du côté des étudiants, notamment puisqu'on s'adressait plus particulièrement peut-être à eux ce matin au travers de cet échange? Est-ce qu'il y a un élément essentiel à pas oublier qu'on n'aurait pas justement évoqué depuis tout à l'heure? Peut-être qu'il n'y en a pas. Hein. Peut-être qu'on a tout dit.
En tout
possible.
Cas, l'élément essentiel, moi je crois qu'on l'a bien compris, c'est qu'il faut être visible. Donc n'hésitez pas à vous déplacer. C'est le plus important.
Et c'est pour ça que du coup, pour aller encore un peu plus loin, cette visibilité passe aussi. Alors je sais que des fois, il y a certains étudiants qui me disent oui, les réseaux. Commencez déjà même des fois par vos parents qui peuvent connaître d'autres personnes et qui. Ça fait un peu effet boule de neige. Et à la finale, vous pourrez peut-être même trouver un emploi sans même. On va dire trop démarcher, parce que dans votre réseau interne, il y a des personnes qui travaillent dans les entreprises, qui recherchent des jeunes pour des emplois saisonniers.
Oui, j'ai l'impression, j'en sais rien, mais c'est très souvent le cas. En effet, les tout premiers jobs qu'on trouve, souvent. C'est parce que quelqu'un connaît quelqu'un. Ouais. Et puis après, bon, on se retrouve confronté à la réalité l'année suivante où, là, ce coup-ci, on ne pouvait pas te prendre. Va falloir envoyer un peu plus de CV et aller à la pêche. En tout cas, merci à vous, Laurine Bocage. On rappelle responsable recrutement à l'agence CIM. On a parlé job d'été. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher des différentes agences. Et évidemment, surtout du Pôle emploi. Et vous avez mentionné également le site L'étudiant qui répertorie pas mal d'annonces.
L'étudiant, JobAviz et ProStudent, c'est les trois premiers sites pourvoyeurs d'emploi sur saisonnier.
Très bien. Merci à vous, Laurine, d'être passée par nos micros. Ce matin, on va parler cinéma dans quelques instants. On va revenir sur le festival Court Ivoire qui avait lieu à Rouen. Ça finissait vendredi soir avec la finale, le prix du jury, etc. On a rencontré Zoé. Elle a été rencontrée le vainqueur qui a remporté le prix du public avec son film Souris. Mais avant d'écouter cet échange, on va se mettre un peu plus dans cette ambiance cinéma avec un morceau de Stéréo Total qui s'appelle Cinémania.
Antonioni, Mastroianni, Fellini, Pasolini, Billy Wilder, Lana Turner, Rainer Werner Fassbinder, Marlene Dietrich, Ernst Lubitsch, James Dean, Charles Chaplin, François Truffaut, Jean-Pierre Léo, Belmondo, Brigitte Bardot, la manie du cinéma, Cinémania. Marilyn Monroe, Jeanne Moreau, Robert De Niro, Mia Farrow, Woody Allen, Sophia Loren, Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Rita Hayworth, Ginger Rogers, Gary Cooper, Dennis Hopper, Lolo Brigida, John Travolta, Peter Henry, Jane Fonda, la manie du cinéma. Cinémania, la manie du cinéma. Cinémania. Anna Chigoula, Anna Karina, Isabelle Huppert, Jodie Foster, Claudia Cardinale, Sergio Leone, Jerry Lewis, Tony Curtis, Fernand Doré, Simone Signoret, Alain René, Maurice René, Judy Garland, Cary Grant, James Stewart, Humphrey Bogart, la manie du cinéma. Cinémania, la manie du cinéma. Cinémania. Isabelle Adjani, Anna Magnani, Roman Polanski, Klaus Kinski, Alain Delon, Michel Simon, Jack Lemmon, Jack Nicholson, Julie Christie, Jack Tati, Warren Beatty, Visconti, Jean-Luc Godard, Jean Renoir, Stéphane Audran, Trintignant, Alfred Hitchcock.
Ce film, il est parti d'où? Il est parti de quoi? Pourquoi ce film? Et comment est née l'idée de ce film?
Tacler les a priori, en fait. D'abord, sur la vague syrienne, ça fait longtemps que je me suis détaché de l'actualité. Presse, radio, télé, je suis pas d'accord avec le discours médiatique tel qu'on nous le donne aujourd'hui. Mais il y avait quand même ce qui moussait de cette vague syrienne, c'était tous ces a priori qui arrivaient et qui m'allaient pas. Donc je bossais avec mon oncle à Paris, voilà. Et puis j'ai eu cette idée, ce que je disais en sortie de sieste, quoi. Voilà. Et puis ce qui s'est passé, c'est que deux ou trois jours après, on s'est retrouvé sur un rond-point avec mon oncle à Pantin, où il y avait des familles syriennes qui faisaient la manche, un père de famille qui était là, la gamine a joué près d'un bidon en flamme pour se chauffer façon brasero, la mère a été derrière peut-être. Enfin voilà. Et mon oncle, ça faisait deux jours qu'il avait préparé un billet de 10 pour le filer, en fait, à une de ces familles syriennes, quoi. Donc il baisse le carreau, il s'adresse à lui en arabe, donc déjà la tête du jeune père de famille qui avait 30-35 ans, qui était oui, en mode urbain, clochard, enfin à la rue depuis, voilà, qui se démerdait pour survivre en milieu urbain, quoi. Et la tête, d'un coup, on lui parle en arabe, on lui pose une question, on lui demande comment il va, donc il répond, il sourit, ils se parlent tous les deux, il lui dit qu'il vient d'un petit village à la frontière turque, qu'il est cordonnier, qu'il est là avec sa femme et avec sa fille, voilà. Et puis le feu repasse au vert, mon oncle lui file le billet de 10, on reprend chacun nos vies. Et donc ça a résonné par rapport à l'idée que j'avais eue déjà, je me suis dit, putain, ouais, il y a un signe en plus qui arrive. Et puis après, bon, je veux pas faire de pub au 13 novembre, mais on s'est pris une claque un peu nationale sur une connerie à cause de 6 gamins qui sont partis en sucette, enfin pour des raisons à la con, voilà. Et je me suis dit, bah, finalement, cette idée, ça peut être un joli message d'amour en réponse à ce message de haine. Voilà, tout simplement, ça cassera beaucoup d'a priori, parce que les a priori ont été encore pires post 13 novembre sur la vague syrienne, en disant que c'était des terroristes tous, enfin bon, les conneries habituelles qu'on peut entendre. Et voilà, non. Non, faut pas partir dans le petit truc et en faire une généralité, c'est hors de question. Mmh. Voilà.
Et comment on passe de cette idée-là et de cette envie-là à l'écriture?
Oh, ça, alors bon, alors moi j'écris assez facilement. Je pense que j'ai de la chance là-dessus. Les choses mûrissent en fait au niveau intellectuel, je pense. Et puis c'est à un moment, c'est comme un fruit, c'est mûr. Et ça va très vite au niveau de l'écriture. Après, bien sûr, il y a toujours des choses qu'on refixe au moment du tournage, donc on précise. J'ai fait un travail à la table avec mon oncle, avec Wassim. Le scénario est passé du français à l'arabe. Donc il y a eu des choses à caler, il y a eu des choses à régler. Donc il y a des choses qui se précisent ensuite. Mais la structure en elle-même, est à 80%, le film était écrit. Et ça s'est fait assez simplement et assez rapidement, surtout que je connaissais mon oncle. Donc l'histoire de l'ordinateur, enfin, je me suis beaucoup inspiré de la vérité, de celle que j'ai vécue étant petit et de toutes les années que j'ai passées à la ferme, pour écrire quelque chose qui puisse paraître après authentique et qui serve la vérité du propos. Voilà, je me suis vraiment inspiré de la réalité et je l'ai fictionné.
Et par rapport à la production, ça a été difficile ou facile à produire? Comment ça s'est passé pour réunir à la fois bien sûr financer le projet et puis bah, réunir une équipe? Est-ce que c'était des gens avec qui tu avais l'habitude de travailler? Au contraire, il y a eu des nouvelles têtes
Il y a eu des deux, j'ai eu la chance d'avoir Alban Cousinard, maquilleuse qui était déjà avec moi sur Narvalo, qui est ma cousine, voilà, et c'est un kiff de l'avoir à chaque fois sur mon plateau parce qu'elle m'apaise, elle me calme, voilà, c'est un bonheur. Le chef opérateur Sébastien Joffard, on travaillait déjà ensemble sur des trucs à côté, voilà, il savait que je faisais de la fiction, lui je savais qu'il était chef opérateur en pub, en fiction, qu'il avait fait des choses, et on avait déjà parlé d'un désir commun de bosser ensemble, donc je lui ai demandé s'il était dispo, il m'a dit oui, c'est lui qui m'a démerdé toutes les histoires de caméras, d'objectifs, voilà, pour des prix d'enfer, enfin bon, il s'est vraiment investi, il m'a trouvé plein de solutions pour l'image, et ça a été top. Et puis après, le reste de l'équipe, c'est des gens que j'ai rencontrés, qui étaient disponibles à ce moment-là, avaient envie, qu'on regardait Narvalo, qu'on discutait de moi, ou qui savaient par l'intermédiaire. Enfin, c'est du bouche à oreille, hein. Donc voilà, c'est fait assez simplement. Moi, j'ai emprunté 5000 euros à un copain, un bon copain, qui me les a prêtés voilà, pour amorcer, on va dire, la pompe du tournage, avoir les premiers fonds pour les billets de train, les gîtes, les courses, enfin, tout ce qui peut se faire. On a fait un Ulule, donc un crowdfunding, un financement participatif. On a récupéré un petit billet de 6000. Puis j'ai un producteur aussi qui nous accompagnait, qui a centralisé tout ça, les assurances, et qui a mis tout ce qu'il fallait mettre au bout, entre guillemets, qui a mis au bout tout ce qu'il fallait pour que les choses se fassent après en post-production, au niveau de l'avant-première, l'inscription au festival, voilà.
Okay. J'imagine que le tournage a dû être un moment particulier, déjà par rapport au fait que les personnages parlent pas français, donc déjà en tant que réalisateur, comment est-ce qu'on gère ça, et puis même le thème est fort, et en même temps toi t'es lié avec un des comédiens qui était ton oncle. Comment tout ça s'est passé, comment s'est passé le tournage?
Bah déjà, on se sent en confiance parce que c'est le terrain où j'ai grandi. Donc voilà, et j'avais envie de réaliser un film, et là, je me retrouvais avec ce que je dirais les plus beaux atouts que je pouvais avoir à l'époque pour faire un film. Donc mon oncle, la ferme, les vignes, l'hiver, le Ventoux, Wassim, qui était un bon comédien quand on s'est rencontrés, Wassim Majid, voilà, j'étais sécurisé aussi parce que de l'autre côté, j'allais avoir un acteur très naturaliste, c'est-à-dire mon oncle. Il y avait une prise de risque parce que je l'avais jamais mis devant une caméra et que voilà, il avait envie, donc déjà c'était bon, ça sentait bon. Puis après, voilà, les choses se sont faites assez simplement là-dessus. Pour ce qui est de l'arabe, même si je comprenais pas, j'avais la note dans l'oreille. Et quand j'étais pas d'accord avec la note qu'ils pouvaient me donner tous les deux, ou l'un ou l'autre, je recommençais en lui disant non, c'est pas ça que je veux, parce que l'intention, en fait, je pense que bon, bah, c'est ma façon de voir, hein. Ça a beau être, mais à l'oreille, à l'intuition, voilà. Quand ça m'allait pas, je leur disais, il y a eu des petites frictions de temps en temps, en me disant oui, non, mais l'arabe, ça change, voilà, s'il te plaît, tu me l'as fait droite, tu me l'as fait, enfin, comme je le souhaite, quoi. Je suis très chiant, je suis très exigeant, donc voilà, je colle mes acteurs jusqu'à ce que j'obtienne ce que je souhaite, moi, pour l'histoire.
Une anecdote de tournage en particulier qui peut venir comme ça éventuellement?
Il y en a plusieurs, mais on a une cantine formidable avec Bruno Mangin, la Rouge de Lille, qu'on voit à l'écran, brasseur dans le Jura, avec son copain Michel Fauvet, qui est venu nous faire la cantine gratuitement sur le tournage pendant une semaine, Cathy. La copine de Bruno, et on était à table, et Bob, qui bien sûr avec Mimi toujours se prend un peu la tête parce que bon, bah, c'est des grands buveurs devant l'éternel, et Bob qui essaye de le convaincre en lui disant mais tu sais, en arabe le B et le V ne se prononcent pas de la même façon, et Michel très simplement lui dit oui, en français aussi. Voilà, ça a été après le leitmotiv sur toutes les feuilles de service. Bob s'est aperçu qu'il avait dit une connerie. Oui, non, mais bon. Voilà, c'était très drôle et c'est resté après. Voilà, le B et le V ne se prononcent pas de la même façon en arabe. Oui, en français aussi. Pas de...
Et maintenant, pour le film, d'une part, parce que j'imagine qu'il fait son chemin en festival, et puis ben, pour toi, quelle continuité, quel avenir?
Bah, déjà, c'est bien que ce film soit vu, parce qu'on fait du cinéma, bah, pour les spectateurs. C'est bien d'avoir ce que vous faites, vous, au niveau du Courtivore, que ce soit le public qui choisisse les films qu'il a envie de voir, de revoir, et que voilà, c'est top. Donc j'espère que je vais essayer de le pousser le plus loin possible au niveau des spectateurs. Ce qui serait sympa, c'est d'avoir une diffusion télé pour ratisser un peu large à un moment, même si le grand écran, la salle, et le fait de voir en un moment, tous ensemble, un film, partager l'émotion, c'est autre chose. Mais voilà. Toutes les diffusions associatives, la CIMAD souhaite le prendre comme support de communication pendant 3 ans, support pédagogique pour enseigner aux enfants. Il a déjà tourné en collège, pas mal. Voilà, je sais que de temps en temps, il y a des animations qui sont faites autour du film. Ils rejouent certaines séquences du film. Ils essayent de voir l'approche qu'on peut avoir. Donc c'est vrai, je m'attendais pas à tout ça, en fait. Je l'ai fait, moi, sur d'autres trucs, en y allant avec simplicité, bon sens, enfin, ce qui me semblait... Qu'est-ce que pouvait être la vérité dans la rencontre entre ces deux hommes, c'est-à-dire que voilà, quand il le vire du cabanon au départ, il le vire pas parce que voilà, il le vire un parce qu'il lui a piqué du bois, ça se lui fout les boules, hein, il lui dit après, et deux parce que le toit peut s'écrouler, c'est simplicité, bon sens, voilà. C'est... Non, et puis moi pour la suite, bah, je me souhaite de faire d'autres films qui plaisent, oui, non, bah, en prenant toujours en compte le spectateur. Voilà, c'est mon leitmotiv, c'est-à-dire que je fais du cinéma que j'aimerais voir. Et moi, je pense être un spectateur exigeant. Et voilà, je ferai toujours du cinéma en pensant, en ayant quand même voilà, la petite touche pour le spectateur. J'aime bien ne pas sentir le fauteuil au cinéma. J'aime bien oublier le fauteuil. Ouais. Donc j'essaie de faire un ciné qui vous fait oublier le fauteuil. Enfin, voilà, c'est pas...
La question bonus, justement, budget illimité, totale liberté, qu'est-ce que tu ferais comme film ?
Alors, il y a deux choses. Déjà, budget limité, totale liberté, automatiquement, ça t'enlève de la contrainte, et la contrainte t'aide à tourner finalement ton histoire et ça lui donne une identité. Donc, je te dirais que bah, j'aimerais tourner ma prochaine histoire, tout simplement, cette comédie sur la peine de mort que j'essaye de faire depuis des années, et que voilà, mais j'aurais pas besoin de tout ça finalement. Si j'en avais juste un petit peu, déjà, je me débrouillerais pour la faire et la faire comme il faut. Mais voilà, c'est déjà, ouais, le prochain film, ce serait bien.
Bah, merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question. Vous avez pensé quoi des autres films présentés ?
Bah, bien, bien. Je me suis régalé, moi, parce que c'est des films que je connaissais pas. Donc, on rentre dans des univers différents. Après, on adhère ou on adhère pas, parce qu'automatiquement, on a un regard de réalisateur, de scénariste. Donc, il y a des choses, voilà, on comprend, on est derrière. Voilà, moi, j'adore le cinéma de Mélanie Lalleux avec Noyade Interdite. Voilà, c'est un univers complètement... ailleurs, elle nous emmène, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la poésie narrative ou la narration poétique, enfin, elle nous emmène et c'est un kiff, quoi. Je trouve que c'est à mi-chemin entre Tati, son univers, et Blier dans ses grands moments, un buffet froid, enfin voilà, c'est tous ces cinémas-là, on le mérite d'exister, quoi. C'est vrai, c'est bien. Autant de réalisateurs, autant d'écritures, autant de cinémas différents. Après, bon, bah, on se bat tous pour le même truc, c'est de trouver un producteur qui nous accompagne et qui nous supporte, qui nous épaule, qui nous... Voilà. Parce que bon, bah, il y a un moment, c'est deux métiers différents, quoi. Mais bon, qui vont dans le même sens.
Un plat de Père Noël qui s'amène.
Moi, jeune. Vous savez où c'est la famille, moi, Navo ?
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a en nous ?
Celui que je cherche.
C'est au 11e étage. Oh, 10 euros, c'est pas comme la crème de la bagnole. C'est pas gratuit le parking d'ici, hein.
Non, j'ai pas de thune, je suis grand pauvre paysan, ça va.
Gaur et Massar, t'as accepté de passer.
Qu'est-ce que tu m'as dit, là ? Un abakhir ? Un ansori ? Ou un ibirgasseri à Sayar ? Les abakhirs ont leur chouré.
Père Noël, ça m'a vite asséché.
Thank you.
Rebecca, le morceau s'appelle Titan. Ils seront à l'affiche du festival Ça sonne à la porte ce samedi du côté de Grosseuvre. On y sera avec la radio Principe Actif à partir de 16h30. Je vous en parle dans quelques instants, mais avant ça, jingle.
Mais tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Non mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour.
T'as raison, Iggy, je t'aime.
C'est pas croyable, il faut que je m'énerve. Pour que tu me le dises, ça te coûtera 30 francs. Payable en deux fois. Qu'est-ce que tu veux comme tuyau ?
Voilà, quelques bons plans avant de se quitter. Bons amis, j'en parlais, ça sonne à la porte. Mais avant ça, je voulais vous annoncer quelques petits trucs qui ont lieu un peu plus tôt dans la semaine. Il y a notamment au Cube à Évreux, la salle de concert, Adanas et Daisy. Ça se passe jeudi à partir de 20h30. Si vous êtes du côté de Breteuil, vendredi soir, vous pouvez aller voir la camarade Adélis en concert. Ça se passe à l'atelier de Catherine Carré. Il y a une convention tatouage du côté du Havre. Ce samedi et ce dimanche 10 et 11 juin. Dernière petite chose, samedi à partir de 15h, ça se passe du côté de Rouen à la librairie Le Rêve de l'Escalier qui accueille l'Entrepode. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux qui vont bien pour en savoir un petit peu plus. Ça sonne à la porte, j'en parlais en trois mots. On devrait, j'espère, avoir Jérémy Tomzik au micro de l'ami Damien jeudi ou vendredi pour vous parler un peu plus en détail de la programmation. Mais sachez que vous pouvez la retrouver sur le site internet csalp.fr. Vous retrouverez toutes les infos sur la programmation. Il y a notamment Tribeca, Devin, Keys, La Dame Blanche, Dingo, Volzovich, Daisy, Aero Brésil, Mind Queens, Bafang et Swing 276 qu'on a eu l'occasion de croiser également ce week-end du côté des Caméléons. Et puis surtout, nous, on y sera à partir de 16h30 sur...
En vrai.
Et exactement, en vrai sur le 102.4. Merci à vous, Julien, de m'avoir accompagné. On vous retrouve un peu plus tard dans la semaine avec l'ami Damien.
On se retrouve tous les matins.
Et ben voilà. Et merci à vous, Laurine Bocage, on rappelle, de l'agence SIM, d'être passée par nos micros ce matin. Merci pour les étudiants qui cherchaient un job d'été. Dans quelques instants, sur l'antenne de Principe Actif, vous retrouvez le Flash RFI. Et du côté d'HDR, c'est la bulle HDR. Voilà, du côté du 99.1 sur Rouen. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine dans la matinale. Jeudi, ce sera la Mideuse. Allez, ciao, une bonne journée à l'écoute de nos programmes.